du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du coq à l'âne, numéro 746, avec autour de la table aujourd'hui Michel Roussel, Jean-Claude Hérault, Bruno André. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour à tous.
On a tous appris avec tristesse la disparition de Tina Turner. Tu en parlais à l'instant, Bruno. Tu l'as vu en concert?
Non, je l'ai pas vu. Ah. Mais par contre, ouais, elle a bercé quand même ma jeunesse. Hein.
Ah ben, je pense que voilà. Tout le monde la connaît. Ah,
ouais. Ouais, on pouvait pas rester insensible.
Non. Ah non, à son charme,
ah,
à sa fougue, à sa chevelure de lionne, à sa musique, et puis à sa vie.
C'était un
sa
personnage vie. Aussi sur
sa
scène
vie.
Et tout.
Ouais.
Sur
scène. Compte,
à ses jambes de feu.
La vie qu'elle a eue.
Ah ouais.
Elle a eu une vie terrible.
Elle a viré son mec, c'est bien.
Bah c'est surtout qu'elle a eu quelques problèmes à le virer déjà. Ça a duré. Elle s'est barrée en douce, hein, vous savez, ça s'est passé en 76. Hein. Elle est restée mariée une dizaine d'années avec Ike Turner, elle s'est barrée avec les enfants et elle a vécu l'enfer pendant cette période-là où lui la poursuivait, essayait de la menacer physiquement. Elle a eu plusieurs fois sa maison qui a brûlé. Et, enfin, elle a vécu quelque chose d'enfer et elle est revenue. Elle est revenue sur les devants de la scène, ouais. Toute seule, au début des années 80, alors que personne ne croyait en elle. Hein.
Et
elle, elle a réussi à percer
Lyon,
et elle est devenue une star, ouais. Avec Ike et Tina Turner. Elle a eu ces quelques années donc de vache mec, comme on dit, et puis une carrière solo formidable, ouais. Hein, dès les années 80. Hein. Ouais. Voilà, Tina Turner, donc un petit clin d'œil aujourd'hui. Bon, nous allons parler de la violence, les enfants. Nous vivons dans un monde où la violence est de plus en plus présente, vous en êtes rendu compte. Entre règlement de compte de dealers quasi quotidien maintenant, des agressions dramatiques chez les soignants, des délinquants de la route sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il y a encore eu deux accidents dramatiques, un dans le Nord, vous l'avez vu, avec un véhicule de police, et puis un autre avec une petite fille qui a été tuée par une jeune fille de 20 ans à Trappes, qui était elle aussi sous l'emprise de la drogue. Sans parler de l'agression du maire de Saint-Brévin-les-Pins ou celle du petit-neveu de Brigitte Macron. La question que je me pose, c'est où va-t-on, les amis? Où va-t-on?
Ouais. On va vers quelque chose qui va être de plus en plus violent. Moi, de toute façon, la violence, c'est quelque chose qui me taraude. Je supporte pas la violence.
Bah donc, oui, on est tous. Je pense qu'autour de cette table, on est tous pareils.
Parce qu'on a eu des éducations, une éducation qui allait dans ce sens. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont toujours dit, faut bannir la violence, quoi. Et après, ça n'empêche pas de discuter, d'être en désaccord.
Ah ben, bien sûr. Mais d'ailleurs, on le voit autour de cette table.
Oui, mais utiliser la. Moi, je trouve ça complètement inadmissible, franchement.
Bah, disons qu'il y a une très mauvaise image, pardonnez-moi, mais il y a une très mauvaise image quand même depuis ces dernières années. Toutes les manifestations qui ont été le théâtre de revendications justifiées ou pas.
Et de débordements.
À un moment donné, moi je rejoins effectivement tes paroles, Jean-Claude, c'est on doit être capable de discuter. Ouais. Dans tous les domaines et faire ce qu'on, enfin, voir ce qu'on voit, même des fois l'agression verbale et la digression à l'encontre de cela ou de cela, c'est je veux dire, c'est pas digne des hommes politiques et c'est pas digne des corps intermédiaires, y compris les syndicalistes. Et les syndicats étant une excellente chose, c'est une modernité de la société, et moi j'en suis plutôt fier de voir ça. Mais par contre, quand je vois effectivement les leaders
politiques,
politiques et syndicalistes.
Quel syndicaliste?
Les syndicalistes, je vais prendre un détail. Il y a quelques temps, je regardais la télé comme ça, et puis il y avait. Comment il s'appelle Laurent Berger,
oui.
Qui était interviewé par donc un journaliste qui lui dit ben, vous allez nous apporter une réponse, on a 3 millions de chômeurs de classe A et il y a 1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et c'est vrai que Laurent Berger a dit ben, oui, parce que c'est des métiers que les Français ne veulent plus, et pour le coup on a besoin de l'immigration. Il me dit, qu'est-ce qui se produit là? En d'autres temps, on appelait ça des négriers. Au bénéfice peut-être du grand patronat, j'en sais rien. Et malheureusement, c'est une réponse à la main-d'œuvre, puisque si on va sur les chantiers, si on va dans l'agriculture, on trouve effectivement ce public. Et à un moment donné, une société, elle n'a pas que des énarques. Oui, et moi j'en fais partie, je peux parler tranquillement. Hein. J'ai pas de bac ni rien du tout.
Il n'y a pas d'énarques autour de
moi. Non, il n'y en a pas.
T'es un bachelier, toi, non?
Oui, mais bon, mais.
Voilà, pas moi.
Moi non plus.
Voilà.
Pas bachelier. 80,
ouais. Aujourd'hui, vous le seriez peut-être, il y a 91% de réussite au bac.
Ouais.
Donc, c'est pas pour ça que ça marche mieux. C'est dommage du reste. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, dans la société, nous, à notre époque, on avait besoin, dans l'inertie des 30 Glorieuses, on avait besoin de main-d'œuvre. Quand t'étais pas bon à l'école, parce que c'était comme ça, tu avais la voie professionnelle.
Ouais.
Et il y a beaucoup de gens, et moi j'ai réussi à me débrouiller, mais il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir un métier, à s'épanouir dans ce qu'ils ont fait.
Et avoir de très bons métiers en plus.
Exactement. On nous parle de discrimination. La discrimination, c'est quoi ? C'est au sein du sein de la République, c'est-à-dire dans l'école de la République. On utilise la discrimination à tout va. Quand un gamin est en difficulté, on ne va pas l'écraser en disant si tu ne travailles pas, l'autre il est à fond, là il est rouge tellement il peut pas, il ne sait plus.
Ouais.
On va dire tu vas faire manœuvre, tu vas faire. Etc.
C'est pas le problème de la violence.
Non. Ah, attends, mais c'est une violence verbale, c'est une violence. C'est, oui, mais c'est normal.
Mais c'est une forme de violence. Non, mais je vois ce que tu veux dire,
c'est
Michel.
C'est une violence sociétale qui, aujourd'hui, comment on peut se permettre de parler de la discrimination quand on ne sait pas la régler à la base ?
D'accord, ça fait partie de la violence, mais il y en a plein. Le problème, c'est, on l'a souvent dit ici autour de cette table, la société devient de plus en plus violente dans les réseaux sociaux, dans les films, dans les actualités, dans les manifestations. Je suis d'accord avec toi, tout devient violent. Mais le problème, il vient peut-être de ce qu'a dit Jean-Claude, de l'éducation. De l'éducation, parce que, bon, lui, il a les cheveux très blancs.
Mais c'est bien.
C'est parce que...
Donc, il a eu une éducation, mais aujourd'hui, on est devenu tellement laxiste que c'est toujours interdit d'interdire, quoi. On laisse tout faire, on cherche toujours une bonne cause. Mais avant, moi, je respectais tout le monde, je veux dire... J'ai fait partie de la vieille école. Tu arrivais à l'école, tu disais l'instituteur, il m'a mis une claque, pourquoi ? Tu en reprenais une, puis après on te demandait pourquoi. J'ai fait le camp dans la cour de récréation. C'est réglé.
Affaire classée.
Maintenant, je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais il y a trop de laxisme et ce n'est pas à la société d'éduquer
les enfants.
C'est aux grands-parents, c'est à tout le monde. Et on est il y a une catastrophe.
C'est pas grave.
Et cette société devient de plus en plus violente parce que il y a eu une escalade. On n'a pas de limite, finalement, ça monte crescendo tout le temps.
Si je peux me permettre quand même, il faut pas globaliser, généraliser. On a l'impression, en vous écoutant, que tout est perdu, tout est fini, que tout le monde dérive. Moi, je vois autour de moi des parents. J'ai des amis, j'ai des enfants qui font le maximum pour bien éduquer leurs enfants.
Bien sûr.
Alors après. Parce que globaliser, généraliser, c'est le discours de.
Je suis d'accord avec toi.
C'est le discours derrière un bar.
Je suis désolé.
Du coup, on entend ce genre de discours.
Non, Jean-Claude, je ne peux pas te dire ça.
Il y a un bémol.
Pas tous en même temps.
Il y a beaucoup de gens qui font des efforts.
Bien sûr.
Pas tout le monde réussit à maîtriser la situation. Moi, j'ai dans mes proches, puisque c'est mes enfants. Aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent sont le smartphone et tout le reste. Comment on fait pour maîtriser tout ça, c'est pas simple. Moi, j'ai assisté un jour à une discussion où le papa, il avait ses enfants qui étaient encore tout petits, il nous a fait tout un charabia, tout un coup, j'entends plus rien, je sais pas.
Et
qui nous dit en gros, vous allez voir ce que vous allez voir, moi, mes enfants, truc machin, ils auront pas le smartphone et tout. Aujourd'hui, je constate que les petits qui sont arrivés adolescents, ils ont le smartphone aussi. Ils restent des heures dans leur pieu à faire je ne sais quoi, à regarder je ne sais quoi. Donc ça veut dire qu'on a une société aussi qui s'est développée, qui est de plus en plus difficile à maîtriser, ce que nos anciens n'avaient pas avant. Ceci étant, moi je tiens toujours à dire, il ne faut pas globaliser. Par exemple, quand tu accuses les syndicalistes, il faut le faire concrètement, savoir tel jour, telle heure,
c'est ce que j'ai fait.
Passé. Non. Par exemple, moi je peux te dire que j'ai participé aux 13 manifestations dans les Hautes-Alpes, à Gap. J'ai vu aucun dérapage. J'ai vu des gens qui étaient extrêmement calmes, qui au contraire avaient une démarche très amicale. On a discuté avec la police, on a discuté avec les renseignements généraux. Moi quand j'étais responsable du syndicat dans les Hautes-Alpes, la première chose que je faisais quand j'arrivais sur un lieu de manifestation que j'organisais moi-même, c'était la mise en relation avec les renseignements généraux et la police.
Tu fais partie de ces gens où tout est beau, tout est rose, va très bien. C'est pas vrai, Jean-Claude, il y a eu des conneries dans les dernières manifestations. Il y a eu des poubelles brûlées
et
tout.
Qui
Ah ben c'est normal ça, mais c'est qui?
C'est
quand même ceux qui manifestent. Alors que
alors c'est pas forcément ceux qui manifestent, c'est ceux qui profitent de la manifestation pour mettre le bazar.
Ceux qui ont tagué l'Alpe Arena, c'est une sorte de violence aussi. Ah ben c'est qui ça? C'est quand même ceux qui étaient contre le 49-3.
Là on est d'accord.
Est-ce que oui, d'accord, mais est-ce que tu crois que c'est
moi, tu vois, moi aussi je suis syndicaliste et je reconnais que parfois et souvent même les agriculteurs, on a des manifestations qui sont violentes. Ça, je le reconnais, mais je le reconnais. Tu vois, toi, tu cherches toujours l'excuse
non, mais
à tout le monde.
Je le reconnais, mais je dis aussi que ce n'est pas les responsables syndicaux qui ont tagué.
Mais bien sûr que non.
Encore cette nuit, d'ailleurs, j'ai vu en passant.
Tu sais
là,
pourquoi?
Il y a un nouveau tag, et je trouve ça complètement scandaleux.
Tu sais pourquoi? Parce que les responsables syndicaux, c'est comme le nom l'indique, ils sont responsables. Oui. Et moi, j'ai été aussi responsable de manifestations qui ont parfois pu nous échapper, et c'était le devoir du responsable d'aller discuter avec la police, les renseignements généraux et autres.
Ce qui peut être dommage, c'est les débordements de nos politiques. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un vrai problème. Alors, sous couvert que non, mais c'est du second degré, c'est du troisième degré, c'est du quatrième degré. Non, excusez-moi, pour le quidam qui a un QI d'huître, c'est pas du troisième ou quatrième degré. Et ça engendre des choses dramatiques. Et ça pourrait engendrer des choses dramatiques. J'ai pris un exemple parce que
j'ai vu.
Ça c'était incroyable. Ouais. Et je vous laisse écouter. Donc là, vous avez le slogan scandé par l'élu Christophe Prudhomme, qui je crois est donc la France insoumise, lors d'une manifestation devant le siège de Renaissance. Est-ce que c'est responsable, franchement les gars, d'avoir ce propos quand on est un homme politique?
Non, c'est pas responsable, je le dis tout de suite et je vous le dis parce que je suis Christophe Prudhomme sur Facebook. C'est un gars qui est capable, c'est un urgentiste, c'est un gars qui est capable de faire des analyses extrêmement intéressantes sur Facebook, que je suis souvent, sur les problèmes d'accès aux soins et tout ça. Et là, je dis non, je lui ai dit non, ce genre de méthode, ce genre d'attitude, c'est ce qui noircit, c'est après les propos que j'ai entendus tout à l'heure. Sauf que voilà, on globalise, parce qu'on voit ça, et après on dit ils sont tous comme ça, mais c'est pas le cas.
C'est pas dit qu'ils étaient
Moi qui suis dans ce milieu-là, toi tu es dans le milieu agricole et tu en as témoigné avec, je trouve, honnêteté et je t'en remercie parce que moi je suis sur la même démarche que toi. Moi j'ai vu des manifestations devant la préfecture où les agriculteurs amenaient du fumier, des trucs, des machins. J'ai vu des débordements qui n'étaient pas très respectueux de la préfecture. Mais je dis pareil, ça c'est pas normal ce qu'on vient de voir là. Et moi chaque fois que je peux le dénoncer, je le fais. Même si ça peut m'apporter des critiques, y compris dans mon milieu de syndicaliste, mais enfin moi j'ai pris du recul, je suis plus un syndicaliste, je suis un syndicaliste retraité, je m'attache à faire beaucoup d'autres choses que ça. Mais de toute façon, ce qu'a fait Christophe Prudhomme là, c'est pas admissible. Moi, je
oui
le
mais
dis,
pourquoi
c'est pas
il
admissible.
A fait ouais. Il a fait pour...
C'est un responsable, comme tu l'as dit, c'est une éducation de la société, admissible. Dans la société, si lui le fait, je sais pas qui le disait tout à l'heure, pourquoi d'autres le feraient pas?
Mais c'est ce que disait Thierry. Alors, le gars qui a un QI, je sais pas comment tu l'as dit,
un QI d'huître. Un QI d'huître.
Qui entend ça, lui, il prend au premier niveau, quoi.
Et là, là, vous trouvez que c'est une belle chose aussi, ça?
Ça non plus.
Ça c'est quand même, c'est dramatique.
Ça non plus. C'est un député de l'FI qui fait ça, et c'est absolument pas admissible.
Oui, mais voilà, le problème, c'est le sujet que je voulais aborder, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils se mettent aussi en scène, où ils cherchent le slogan qui va faire le buzz.
Ouais. Hein, ah oui.
Et voilà, c'est aussi pour faire le. Et ça, c'est un effet pervers de notre société qui communique beaucoup avec les réseaux sociaux. Ça, on en a déjà reparlé du mal que font les réseaux sociaux. C'est aussi le mal que les parents, la difficulté qu'ont les parents à éduquer leurs enfants, parce que aujourd'hui, tu peux pas priver entre guillemets tes enfants des réseaux sociaux, d'Internet et autres. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que quand tu essaies de réduire leur utilisation des écrans, et ben tu rentres tout de suite en conflit avec tes enfants.
D'où l'intérêt, d'avoir une éducation encore beaucoup plus pointue aujourd'hui par rapport à notre génération.
C'est très difficile. Comme ils le disent, en plus, ça arrive dans une période où souvent les ados sont en crise d'adolescence.
Oui, bah oui.
Et moi, je suis concerné en ce moment.
Tu es encore ado.
J'ai plusieurs petits-enfants, j'en ai 7 en tout, et forcément, j'en ai quelques-uns qui sont en crise d'ado.
Et oui.
Et je les observe. Et c'est très compliqué. Tu peux avoir la pire des éducations restrictives.
C'est très compliqué à gérer. Voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus souples que d'autres.
Voilà. Avant, nous étions aussi en crise d'ado. On a vécu ça.
Évidemment.
Mais on n'avait pas les réseaux sociaux.
Et
là, ça a aggravé la situation. Franchement, aujourd'hui, les parents qui ont des ados avec les réseaux sociaux qui sont en crise d'adolescence, ils sont face à des problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un problème qui est surgi, là, parce que moi, je siège au Conseil territorial de santé. Il y a une psychiatre qui est venue témoigner l'autre jour de la situation dans les Hautes-Alpes. Il y a une pénurie de psychiatres, et on va en parler. Rien d'extraordinaire.
Tombe bien, tiens.
Et elle témoignait au moment où on a besoin, où nos ados sont là, beaucoup en crise, qu'on aurait besoin de les accompagner, il y a pratiquement plus de psychiatres.
On va rester sur la psychiatrie, justement, avec la justice en France qui a du mal avec les personnes qui sont jugées irresponsables pénalement et qui sont laissées en liberté. C'est le cas du meurtrier, vous l'avez vu, de l'infirmière du CHU de Reims. L'homme de 59 ans, interpellé donc après les faits, avait été déclaré responsable pénalement dans une autre affaire il y a quelques années, en 2017. Question, que faisait-il dehors? Alors, est-ce qu'on doit en finir avec l'irresponsabilité pénale? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour des cas pareils? Parce qu'il n'y a pas de place.
Le problème, tu l'as dit dans ta fin de phrase.
Il n'y a pas de place.
Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien avec l'hôpital psychiatrique de Laragne, dans quel état il est aujourd'hui par rapport à ce qu'il était avant. Aujourd'hui, voilà.
Donc, ne serait-ce qu'il y a 20 ans en arrière.
Sans
aller très loin.
Je connais un cas d'un schizophrène, parce que c'était un schizophrène qui a tué cette dame. Je connais le cas d'un schizophrène. Aujourd'hui, moi, des fois, je me dis, lui, il ferait un gros problème, que je ne serais pas étonné. Sauf qu'il est en liberté, il a son studio. Je sens que quand il ne prend pas ses médicaments, il est limite. Et le jour où il ne prend pas ses médicaments, il est capable de faire une connerie. Et s'il fait une connerie, on va dire, mais attendez, mais on l'avait identifié, on savait qu'il était schizophrène. Et qu'est-ce qu'on a fait? On ne fait rien. Il n'est même pas suivi, lui.
Mais on n'a pas assez, j'allais dire, de... On ne peut pas non plus enfermer tous les schizophrènes. Oui. Enfin, je veux dire, tous ceux qui passent par un hôpital psychiatrique à un moment. Je suppose qu'il y a des experts qui connaissent qui connaissent leur métier, j'ose espérer, et c'est très difficile, j'imagine, parce que il n'y a qu'à voir dans les procès avec des schizophrènes ou des malades mentaux, vous avez un expert, puis un deuxième expert, puis un collège d'experts, et quelquefois ils ne sont pas d'accord. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Comment on fait
dans ce cas-là, quand les gens prennent leur traitement, ça se passe.
Oui.
Mais effectivement, on peut pas mettre...
un gendarme derrière chaque schizophrène. Voilà.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Non, mais tout le problème est là.
C'est la problématique. Et après, enfermer les gens, c'est un peu compliqué.
On imagine.
Il n'y a pas qu'une histoire de finances, il n'y a pas qu'une histoire d'environnement. Il y a aussi, à un moment donné, une forme de liberté. Et peut-être, on nous dit qu'effectivement, les prisonniers, il vaut mieux qu'ils restent pas longtemps en prison et qu'on les rééduque à vivre en société. Pour des gens qui sont peut-être en grande difficulté comme ça, qui ne sont pas eux-mêmes, mais quand ils ont un traitement, ils arrivent à peu près à être sociables, entre guillemets. Après, il y a des gens qui ont un peu de lucidité, ils ne prennent plus leurs médicaments parce qu'ils ne veulent plus être sous cette emprise. Et ils sont eux-mêmes. C'est là où ça devient très compliqué. Une société extrêmement complexe, dans tous les domaines, on vient de le faire en quelques minutes, les enfants,
Et puis il y en a qui s'engouffrent dans la faille parce qu'ils disent, si je me fais passer un petit peu pour juste,
je peux passer à côté.
Et comme tu le disais très bien, qu'il y a trois spécialistes qui ne vont pas être d'accord et ça va profiter à qui?
Et après aussi,
la responsabilité pénale.
Je suis pour les médias, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire, mais la médiatisation et les télévisions l'émission là,
foisonnement,
sans arrêt un circuit fermé là. Ça fait que bon, cette dame qui a été assassinée, c'est complètement scandaleux, je ne remets pas en cause, mais ça prend des proportions.
C'est un effet loupe, hein.
Dans la tête des gens, c'est impressionnant. Bien sûr, de ça. Alors que tu vois, il y a quelques années, ça serait peut-être produit, mais
ça s'est déjà produit à l'époque où il n'y avait pas les télévisions en continu et où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un effet super loupe. Tu as l'impression qu'il y en a un qui arrive et tu as l'impression qu'il y en a eu 50. Quoi.
Est-ce qu'il y en a plus?
Non, mais ça, c'est aussi un vrai problème.
Est-ce qu'il y en a plus qu'avant?
D'après ce qu'ils disent, non. Non. Ouais, d'après ce qu'ils disent, non.
Je voudrais reprendre la répartie de Jean-Claude. C'est globalisé.
Mais ça ne règle pas le problème pour autant.
Et j'échappe pas effectivement à cette réflexion. C'est pas parce que je dis il y a ça, que c'est globalisé. Non. Il y a les effets pervers qui amène à un moment donné à des réactions globales et à une éducation de la société. Ouais. Aujourd'hui, je suis franchement désolé, mais il y a un économiste il y a une quinzaine d'années qui avait évoqué il y aura de moins en moins de gens qui vont travailler. Ceux qui vont travailler de plus en plus pour gagner de moins en moins. Mmh. On est en plein dedans.
Ah oui, oui.
Et le mécanisme social, comme tu l'as dit un peu, il y a un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se frayent dans cette niche, sur lesquels, là, pour le coup, le médecin conseil, on se demande où il va chercher effectivement des invalidités, des trucs comme ça. Il y a un moment donné, c'est l'argent public. L'argent public, je suis franchement désolé.
Et en contrepartie, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis administrateur du GEST, Service de santé au travail des Hautes-Alpes. J'ai participé à des travaux la semaine dernière. Ils font des choses remarquables.
Ben oui, non, on ne dit pas le contraire.
Qu'on ne faisait pas avant. Uh-huh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont recruté du personnel spécialisé. Alors, c'est vrai, ils ne font plus la visite systématique,
Mais par contre, ils mettent en place. Hein.
Comment ?
Elle est quand même payée par les employeurs.
Hein. Ah, je suis d'accord.
Ah oui, oui.
Parfaite. C'est fantastique, ça, quand même.
C'est à l'origine, c'est à la demande des employeurs.
Et les employeurs, ils siègent avec. Moi, je représente les employeurs.
La visite médicale annuelle.
Je représente.
Mais moi, je peux dire que bien souvent, elle n'est pas faite et elle est payée par les employeurs.
Tu as complètement faux. Il faudra faire une émission là-dessus.
Ah oui, moi, je veux bien. Je vais venir avec des preuves, tu vas avoir du mal.
Non, mais on fera venir le directeur du GEST. Ou le docteur Magallon, par exemple, qui connaît parfaitement le dossier, je peux te dire qu'aujourd'hui, les visites sont effectivement plus obligatoires. Par contre, il y a toute une série de dispositifs. L'employeur peut demander, pour des cas qu'il considère important, que le salarié soit suivi. Le salarié qui considère avoir des conditions de travail qui vont pas bien peut demander une visite médicale. On peut faire accompagner les employeurs, ils siègent. Le MEDEF est autour de la table. L'autre jour, ils y étaient. Ils sont intervenus. Ils savent très bien que c'est eux qui payent la cotisation. Mais ils reconnaissent unanimement, et moi je les soutiens, que ce qui a été mis en place aujourd'hui, je parle du département des Hautes-Alpes. Je ne parlerai pas des Bouches-du-Rhône, c'est pas tout à fait le même processus. Mais dans le département des Hautes-Alpes, il y a eu des progrès de fait en matière de prévention de santé au travail qui sont très importants. Et ça, il faut le mettre en avant.
Alors, on va changer de sujet parce que il y a une autre forme de violence, c'est la violence routière. Voilà. Problème de drogue et de l'alcool volant. Ça date pas d'aujourd'hui, on est d'accord, ça date depuis des années. Alors, la question c'est, ne devrions-nous pas être beaucoup plus sévères avec les meurtriers de la route? Instaurer également une peine de prison dès que vous êtes pris, par exemple, au volant, sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou des psychotropes, parce qu'on n'en parle pas, ça, mais c'est important.
Ou des trois en même temps.
Voilà. Si vous saviez que même si vous êtes arrêté sans accident, mais avec un taux d'alcool, vous allez peut-être en prison, est-ce que les gens feraient plus attention selon vous? Ah, c'est une question que je pose.
Il faudrait qui m'ont déjà dit qu'il y a des contrôles.
Il y a des contrôles.
Je roule beaucoup. Je sais pas, peut-être que je passe au travers.
Pas. Moi, j'ai été contrôlé il n'y a pas longtemps.
Mais moi, je suis jamais contrôlé.
Moi, j'aimerais être contrôlé.
J'ai déjà été contrôlé et plus d'une fois.
Et sur Gap
et sur les alentours. Ah, ouais. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Et quand il y a des contrôles et qu'on a les résultats donc de la gendarmerie ou du commissariat qui les donne, eh bien, on voit qu'ils ont arrêté X personnes sous l'emprise de l'alcool avec donc une amende, retrait de permis. Et si au lieu de tout ça, c'était la tôle.
Est-ce que ça calmerait
la place?
Est-ce qu'il y a la place aussi? Il me semble quand même que, alors peut-être que je me trompe, j'ai pas les chiffres. Il me semble quand même que par rapport à l'alcool, il y a une prise de conscience qui a été faite parce que avec le samedi soir, les gens, il me semble que dans les soirées, les gens ne boivent moins qu'avant.
Ouais. Je ne sais pas à quelle soirée tu vas, mais moi je vais à d'autres soirées, je peux te dire que...
Ah mais bon, les gens dorment... moi je pense quand même que les gens dorment plus sur place. Enfin, moi, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui a été faite. Par contre...
Et peut-être pas suffisante.
C'est peut-être pas suffisant, c'est, ça sera ouais, parce que...
Il faut continuer.
Voilà, il faut continuer. Mais tu regardes bien dans les bars à gap, les gros apéros qui existaient il y a 15-20 ans et tout, il y en a beaucoup moins. Alors peut-être que les gens ils boivent chez eux, je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression
tu bois
que...
chez toi, tu restes chez toi, il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà. Et moi je vois les jeunes, on parlait des jeunes tout à l'heure, moi j'ai des enfants qui ont 25 ans à peu près, et ben ils font des soirées où ils couchent sur place. Aussi,
ouais, c'est très bien. C'est très bien, mais parce que tu as des jeunes
ils ont la notion
qui ont eu une belle éducation.
Ouais, non, mais merci pour leurs parents. Mais après, il y a l'autre problème, j'ai l'impression que la drogue, c'est vraiment, là, il y a du retard, il y a un laisser-faire aussi des autorités, parce que qu'est-ce que tu veux, dans certains quartiers, on laisse quand même faire, parce qu'on a...
Alors ne dis pas dans certains quartiers, puisque la drogue, maintenant, tu l'as partout. C'est un peu stigmatisant de penser que la drogue n'est uniquement que dans les quartiers difficiles des villes.
À
Gap, c'est pas une ville difficile, à Briançon, c'est pas une ville difficile, il y en a autant qu'à Marseille.
Je vais préciser.
Non, mais je le dis.
Il y a quand même des quartiers où c'est quand même les plateformes tournantes.
Oui, mais il y en a partout maintenant, même à la campagne.
Ouais, d'accord, mais il y en a partout, mais d'accord. Les gens, moi je connais mal le réseau, mais les gars pensés vont s'approvisionner où?
T'as intérêt à mal
ils vont
connaître.
S'approvisionner où?
Ben, à Gap.
Ouais, mais ça, c'est les petits. Mais je vais dire, on sait non, très bien
tu,
que...
Je pense que tu es déconnecté. Tu trouves tout ce que tu veux à Gap. Mais je te le dis.
Attends.
Mais je te le dis.
Je suis pas déconnecté, j'ai bien conscience de ça, mais tu veux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est que les gros bonnets, ils sont où?
Ah bah les gros bonnets, ils sont à l'étranger.
Ils sont à l'étranger ou ils sont dans des cités où même plus la police rentre.
Oui.
Voilà. Et j'ai la faiblesse d'esprit de penser que si on s'attaquait au gros port d'arrivée de cette drogue, peut-être qu'on aurait en couperait les ramifications. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois.
Voilà. Je ne suis pas sûr que les gros bonnets soient dans les Hautes-Alpes, encore que peut-être, je ne sais pas. Mais il me semble que si on tapait fort dans les endroits où la drogue rentre, et je pense qu'on le connaît, on les connaît ces endroits-là.
Mais les enfants, quand même, je ne sais pas si tu as vu récemment tout ce qu'ils ont capté de stock de drogue au port de Marseille, ou je ne sais pas quel port, peu importe. Les douanes, quand même, sont...
Oui, mais quand tu sais ce qu'ils chopent, ça représente peanuts par rapport à ce qui passe, tu imagines ce qui passe.
Quand tu sais
quoi.
Que dans Marseille, quand ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans la journée, ils font un feu d'artifice. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
Il y a quand même un souci. On parlait tout à l'heure d'éducation. Là. Comment ça se fait qu'il y a autant de consommateurs?
Oui, alors ça serait bien de s'attaquer effectivement à ceux qui vendent, mais à ceux qui consomment, parce que s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de vendeurs.
Exactement. Soit effectivement on s'attaque à eux, soit on va considérer qu'il faut peut-être légaliser. Alors pour le coup, c'est extrêmement complexe.
Ah oui.
Et oui, c'est relativement.
Tu as raison. Complexe. C'est complexe parce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est. Moi, je suis incapable de le dire.
Dans certains pays, ça s'est fait. Il faudrait faire un bilan.
Ils ont fait un peu marche arrière.
Les Hollandais, ils en reviennent.
Je sais qu'au Portugal, ils l'ont fait aussi. Mais c'est pas forcément la meilleure solution.
J'étais plutôt pour légaliser, entre guillemets, le shit. Mais derrière, on s'aperçoit qu'effectivement, si c'est légalisé, il va y avoir des taux de toute façon, THT qui seront inférieurs.
Exactement.
Et ça ne marchera pas.
Il y aura toujours du shit plus fort que tu pourras acheter.
Ça va être un
THT supérieur.
En parallèle, quand on regarde l'alcool et les cigarettes. Il y a toujours peut-être un peu de fraude, mais c'est epsilon.
Oui.
C'est peut-être mieux.
Tu vois, sur les cigarettes, le gouvernement a la mainmise quand même, la maîtrise. Eux, pour faire baisser la consommation, ils augmentent le tarif des cigarettes.
Entre autres.
Ils arrivent à piloter.
Ils augmentent la contrebande aussi.
Si vous voulez vraiment mettre un coup, ils interdiraient la vente de cigarettes.
Mais même l'alcool.
Produit interdit, alcool, cigarettes.
On reviendrait comme la drogue.
À la prohibition.
Il faut reconnaître que la loi Évin quand même a eu ses effets, ça a mis du temps. Ouais. Reconnaissons aujourd'hui qu'en lieu public, même dans les familles, dans les réunions de famille, les gens sortent pour fumer.
Oui, on est d'accord.
Il faut reconnaître que ça fait
partie. On est d'accord.
Complètement. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu une éducation qui a fonctionné. Là.